Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du lundi 20 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. En Centrafrique, une quinzaine de civils ont été tués par des milices anti-Balaka, selon l'ONU. À Goma, dans l'est de la RDC, des manifestants ont appelé à une journée ville morte pour protester contre la criminalité. 3 morts, dont 2 policiers. Des manifestations contre le pouvoir militaire hier au Soudan ont fait 1 mort et 125 blessés. Le bilan du typhon Rai qui a frappé les Philippines s'est encore alourdi à au moins 375 morts et 56 disparus lundi. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Centrafrique, une quinzaine de civils ont été tués dans des attaques d'un groupe armé les 6 et 7 décembre dans le centre-est du pays, en proie à des combats entre des rebelles et l'armée. Mais c'est aujourd'hui, lundi, que l'ONU l'a annoncé. Abdelrahman Dia.
Selon la mission des Nations Unies en Centrafrique, la tuerie a eu lieu à Boyo, à environ 400 km à l'est de la capitale Bangui. La MINUSCA évoque également des cas d'amputation, d'extorsion et de destruction d'habitations et près de 1500 personnes déplacées. L'ONU met en cause les milices anti-Balaka dominées par des chrétiens et des animistes. La MINUSCA condamne fermement les récentes violences ciblant délibérément les populations civiles et a également mis en garde sur les risques de ciblage et d'exactions exclusivement dirigées contre les communautés peules qui pourraient être commis. Le 28 novembre, une trentaine de civils et 2 militaires ont été tués dans des attaques menées, selon les autorités, par un autre groupe rebelle, les 3R, majoritairement composé de peuls dans le nord-ouest de la Centrafrique. Le président Faustin Archange Touadéra a décrété le 15 octobre un cessez-le-feu unilatéral pour favoriser l'ouverture prochaine d'un dialogue.
Toujours en Centrafrique, 5 civils et 1 soldat ont été tués dans une attaque armée dans le nord-ouest du pays. Dimanche, les rebelles ont attaqué des positions des forces centrafricaines et sont entrés dans la ville de Man, à 600 km au nord-ouest de la capitale Bangui, a déclaré le sous-préfet de la région. 2 policiers et manifestants ont été tués lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une journée d'action ville morte pour protester contre la criminalité. Le Point avec John Lyndon.
Des manifestants ont envahi tôt le matin des artères principales de la ville, enflammant des pneus et dressant des barrages de pierre sur la chaussée. La police a tiré à balles réelles et fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Un commissaire de police a été tué par les manifestants et un agent de l'ordre a été lapidé, a déclaré le général Sylvain Ekengue, porte-parole du gouverneur militaire de la province. Un chef de quartier qui a requis l'anonymat a de son côté affirmé qu'un manifestant, un motard, a été tué par balle. Les activités sont restées paralysées toute la journée avec des rues barricadées. Les boutiques, banques, écoles et marchés centrales ont été fermés. Des mouvements de jeunes de Goma avaient appelé à une journée ville morte ce lundi pour protester contre la criminalité grandissante. Plusieurs incidents violents ont eu lieu, dont la mort d'un campiste le 14 décembre et 2 jours plus tard, un braquage qui a fait 2 morts et plusieurs blessés.
Toujours concernant la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé lundi d'un an la mission de casquets bleus en leur demandant de se concentrer sur le nord-est du pays et d'accentuer leurs opérations conjointes avec les forces congolaises. Au moins 44 personnes ont été tuées et 111 blessées depuis 2 semaines dans l'extrême nord du Cameroun, théâtre de violences communautaires qui ont fait fuir plus de 100 000 personnes selon l'OHCR. La quasi-totalité de ceux qui arrivent au Tchad sont des femmes et des enfants. Environ 48 000 personnes ont trouvé refuge près de la capitale tchadienne N'Djamena. Un groupe armé du nord-ouest du Nigeria a subi de lourdes pertes selon l'armée qui a bombardé ses positions dans la région. Des bandes criminelles appelées localement bandits sévissent depuis des années dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, multipliant les attaques, les enlèvements et meurtres dans les villages. L'ancien entraîneur gabonais de football de l'équipe nationale des moins de 17 ans, accusé d'agression sexuelle présumée de centaines d'enfants a été arrêté par la police. Patrick Assoumou Eyi a été arrêté lundi à Ntoum, à environ 40 km de la capitale de Libreville. Il est actuellement entre les mains de la police après le dépôt d'une plainte pour acte de pédophilie, a expliqué la source judiciaire. Au Soudan, les manifestations contre le pouvoir militaire ont été réprimées par les forces de l'ordre. Il y a eu un mort et 125 blessés. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Des centaines de milliers de Soudanais ont réclamé dimanche un pouvoir civil et démocratique, dénonçant le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan. Selon un communiqué publié par un syndicat des médecins pro-démocratie, Majoub Mohamed Ahmad, 28 ans, est mort après avoir reçu des balles dans la poitrine durant la répression des manifestations à Khartoum. Le ministère de la Santé a fait état de son côté de 123 blessés à Khartoum et deux autres à Kassala, dans l'est du pays. Ce matin, les forces de l'ordre ont fermé plusieurs ponts reliant le centre de Khartoum à d'autres villes à l'ouest et au nord de la capitale. La population prévoit de poursuivre les manifestations les 25 et 30 décembre. Ces manifestations ont eu lieu le jour du troisième anniversaire du début de la révolte qui avait entraîné la chute du président Omar el-Béchir en avril 2019.
Les rebelles éthiopiens du Tigré, qui avaient avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar, sont en train de se replier vers leur région afin d'ouvrir la porte à l'aide humanitaire, a annoncé leur porte-parole Getachew Reda. Cette annonce ouvre une nouvelle phase de ce conflit meurtrier qui oppose depuis plus d'un an les forces pro-gouvernementales aux rebelles tigréens et a déclenché une profonde crise humanitaire. 17 candidats à l'élection présidentielle prévue vendredi en Libye se sont montrés lundi résignés à un report du scrutin, même si aucune annonce officielle n'a été faite. À 4 jours de l'échéance, de nombreux responsables libyens conviennent que l'élection ne pourrait avoir lieu le 24 décembre en raison de l'absence d'une liste officielle de candidats et des désaccords entre camps rivaux sur la base juridique du scrutin. Alaa Abdel Fattah, figure centrale de la révolte de 2011 en Égypte et en détention provisoire, a été condamné à 5 ans de prison par un tribunal d'exception du Caire pour diffusion de fausses informations, a annoncé lundi sa sœur. Deux autres militants ont été condamnés à 4 ans de prison pour les mêmes charges. Mohamed Al-Bakr, l'ancien avocat de M. Abdel Fattah, et le blogueur Mohamed Ibrahim, alias Oxygène. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, testé positif au Covid le 12 décembre, a terminé sa semaine d'isolement et a pu reprendre ses fonctions qu'il avait déléguées à son vice-président. Il présidera la dernière réunion du gouvernement de l'année mercredi, a annoncé lundi la présidence dans un communiqué. M. Ramaphosa, entièrement vacciné, a été testé positif après s'être senti mal le 11 décembre au Cap.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan du typhon Rai, le plus puissant à frapper les Philippines cette année, s'est alourdi à au moins 375 morts et 56 disparus. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Selon le bilan fourni par la police nationale ce lundi, il y a 375 morts, 56 disparus et au moins 500 blessés. Des régions entières ont besoin d'urgence d'eau potable et de nourriture, tandis que plus de 380 000 personnes ont dû fuir leur maison. La branche philippine de la Croix-Rouge a fait état d'un carnage complet au niveau des zones côtières après le passage du typhon. La tempête a arraché des toits, déraciné des arbres, renversé des poteaux électriques, démoli des maisons en bois et inondé des villages. Les moyens de communication dans plusieurs parties des zones affectées ont été interrompus. L'électricité est également hors service, affectant les stations de remplissage d'eau. Des milliers de militaires, policiers, gardes-côtes et pompiers ont été déployés pour effectuer le travail de recherche et de sauvetage. Nourriture, eau et fournitures médicales ont été transportées par des navires, des gardes-côtes. Du matériel pour dégager les routes bloquées par des poteaux électriques et arbres tombés a également été envoyé. Le président Rodrigo Duterte s'est rendu dans certaines zones affectées samedi et a promis un fonds d'aide de 35 millions d'euros.
Ici aux États-Unis, Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, a averti dimanche que le variant Omicron du COVID-19 se déchaînait à travers le monde en s'inquiétant du nombre d'Américains toujours non vaccinés. Le Forum économique mondial, qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos, en Suisse, est reporté comme l'année dernière à cause de la propagation du variant Omicron, ont annoncé les organisateurs. La France a salué lundi l'élection du jeune candidat de gauche Gabriel Boric à la tête du Chili et l'a assuré de sa détermination à poursuivre le renforcement des relations bilatérales. Gabriel Boric, qui a 35 ans, devient le plus jeune président du Chili et rejoint les dirigeants les plus jeunes au monde. Il a emporté avec 55% des voix dimanche au second tour de la présidentielle face au candidat d'extrême droite José Antonio Kast, un admirateur de la dictature d'Agostino Pinochet. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
La start-up nigériane Metro Africa Express a levé 31 millions de dollars de nouveaux capitaux. À en croire le journal Financial Afrique, l'opération de financement a été menée par le fonds d'investissement Lightrock et la société internationale de capital risque Global Ventures, basée aux Émirats Arabes Unis. Selon Financial Afrique, la somme levée permettra à la start-up de financer son expansion internationale, le déploiement de véhicules électriques, d'infrastructures de recharge et de produits financiers à plus de 100 000 conducteurs. Le gouvernement camerounais a fixé les conditions d'exonération fiscale pour les titulaires de contrats pétroliers, notamment la taxe spéciale sur les revenus. Ils seront exonérés de cette taxe à condition de fournir leurs prestations au prix réel du marché selon la loi des finances 2022. Les autorités camerounaises espèrent ainsi inciter les opérateurs du secteur pétrolier à améliorer leurs prestations. Le Forum économique mondial, qui devait se tenir du 17 au 21 janvier à Davos en Suisse, est reporté à cause de la propagation du variant Omicron. La réunion qui réunit le monde des affaires, de la politique et de la diplomatie doit maintenant se tenir au début de l'été, selon les organisateurs. Des sessions en ligne seront néanmoins organisées dans le but de formuler des solutions pour les problèmes les plus urgents du monde.
Et sans transition, nous passons à votre page sport avec Élisée Oumpatine. Bonsoir, Élisée.
Oui, bonsoir. À moins de 3 semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'est rendu aujourd'hui au Cameroun pour s'entretenir avec les autorités. Une visite pour obtenir des garanties sur le protocole sanitaire publié la semaine dernière. Beaucoup d'hypothèses circulent à propos de la tenue ou non de la CAN qui doit commencer le 9 janvier. Accueilli par Samuel Eto'o, fraîchement élu président de la Fédération camerounaise de football, le Sud-Africain a envoyé un message clair à 20 jours du coup d'envoi du tournoi. On l'écoute.
Nous parlerons et demain nous vous donnerons notre décision. Nous sommes très clairs quant à notre engagement à faire de la CAN un succès au Cameroun. Donc, nous vous donnerons plus de détails, mais je suis très confiant que nous travaillerons ensemble avec le peuple camerounais, qui est une grande nation de football qui a fait la fierté du Cameroun et de l'Afrique. Je suis convaincu qu'à l'issue de nos réunions, aujourd'hui et demain, nous pourrons sortir d'ici et donner à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons l'engagement envers notre peuple au Cameroun et l'engagement pour le développement et la croissance du football en Afrique.
Des propos rassurants et suffisants pour convaincre le comité exécutif de la CAF, pas parvenu à se mettre d'accord dimanche d'acter définitivement le maintien de la compétition. Précisons que les clubs européens, le président de la FIFA, Gianni Infantino, mettent la pression afin de reporter la compétition. Et en attendant de connaître le sort du tournoi, certaines sélections affichent déjà leurs armes. Le cas de la Guinée qui ira au Cameroun avec 27 joueurs. Le sélectionneur Kaba Diawara a dévoilé la liste des joueurs en qui il place sa confiance avec des choix forts. Si on note la présence des cadres comme Amadou Diawara, Nabi Keita, Ibrahim Konté, Isiaga Silla et Martinez Kanté, en revanche, pas de François Kebano et Madi Camara. Les deux joueurs qui ont manqué le dernier regroupement du Sili en alimentant la controverse ne seront pas du voyage. Le technicien guinéen repart clairement sur un nouveau projet avec des joueurs tels Saïdou So de l'AS Saint-Etienne, Akibou Camara d'Olympiakos ou encore Moriba Kourouma du RB Leipzig. La Guinée, logée dans le groupe B en compagnie du Malawi, du Sénégal et du Zimbabwe, entamera son stage de préparation le 26 décembre prochain à Conakry avant de s'envoler deux jours plus tard pour Kigali.
Merci Élisée pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En RDC, des manifestants ont envahi tôt le matin des artères principales de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, frontalière du Rwanda. Ils ont enflammé des pneus et ont dressé des barrages de pierre sur la chaussée. Les manifestants protestaient contre la criminalité. Deux policiers et un manifestant ont été tués dans les affrontements. Le point avec notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Depuis les premières heures de ce lundi matin, plusieurs artères de la capitale de la province du Nord Kivu ont été envahies par des manifestants qui ont incendié des pneus et érigé des barricades sur la route. Cette situation a entraîné la paralysie de toutes les activités scolaires et socio-économiques. Les banques, le marché et les magasins n'étaient pas opérationnels. L'origine de cette colère est motivée par la supposée arrivée de la police rwandaise à Goma pour appuyer la police congolaise dans la lutte contre l'insécurité dans la ville. Josué Walai est militant de la Lucha.
C'était une ville morte, seulement la population, parce qu'elle est fâchée, elle a transformé ça en une manifestation. Mais pour nous, l'objet était juste d'appeler nos gouvernants de ne pas accepter la présence des policiers rwandais dans la ville de Goma, mais aussi dénoncer cette montée de l'insécurité, cette montée des assassinats dans la ville de Goma. C'était juste ça la raison de notre appel à une ville morte.
Pour les autorités provinciales, les manifestants ont violé les règlements de l'état de siège et se sont basés sur des rumeurs pour occasionner des troubles. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, a démenti une présence actuelle et prochaine de la police rwandaise sur le sol congolais.
Aucun projet dans le sens de l'arrivée de la police rwandaise à Goma n'est envisagé. Cette présence policière rwandaise à Goma n'existait que dans l'imaginaire des vendeurs d'illusions et des manipulateurs, ainsi que des gens de mauvaise foi, prêts à sauter sous n'importe quelle rumeur pour provoquer le désordre et faire du mal aux paisibles populations.
Le bilan révélé par les autorités militaires fait état de deux policiers tués, un troisième corps non identifié et plusieurs blessés parmi les policiers et manifestants. La police a déploré la présence et la détention d'armes par des civils. La société civile a quant à elle déploré l'utilisation par la police d'armes à feu pour disperser les manifestants, une hypothèse balayée par les autorités militaires. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Fête de fin d'année et cherté de la vie, les prix des jouets, des vêtements et autres cadeaux pour enfants connaissent une hausse notable en Côte d'Ivoire. Parents et commerçants se renvoient la balle quant à la flambée des prix, sans oublier l'impact du Covid-19. Visite guidée à Adjamé dans la grande commune commerciale d'Abidjan. C'est un reportage de Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Nous sommes à Adjamé, la commune commerciale d'Abidjan, au marché du Forum. Il y a plus de monde que d'habitude. Nous nous dirigeons vers l'étal d'une vendeuse de jouets.
Je m'appelle Galasuba Madusu. Bon, il y a pour les filles, il y a pour les garçons. Il y a poupées, il y a moto, il y a des petites voitures, il y a les pianos. Bon, allez, le marché, là, il n'y en a pas. De. Sinon, cette année-là, c'est trop lent même. À la boutique là-bas, c'est cher. De. Où on paye en gros, là. C'est augmenté.
Aziz Haruna est vendeur de jeux télécommandés. Pour lui, les prix ont connu une hausse par rapport à l'année dernière.
Les prix ont augmenté. Tout ce qu'on vend à 1500, aujourd'hui c'est 2000. Quand les clients viennent, ils disent non, l'année passée ils ont pris ça à 1500. Aujourd'hui on dit que 2000. Aujourd'hui c'est pas nos faux. Il y a les poupées qu'on prend 4000 en gros. Aujourd'hui on s'en va, on dit 4500. On ne veut plus vendre ça à 4000 encore.
Attiré par l'affluence devant un magasin situé non loin du 3e arrondissement de police, toujours au marché du Forum à Djamé, nous décidons d'y faire un tour. Difficile de se frayer un chemin dans cette ambiance. Des personnes venues faire des achats nous livrent leurs impressions.
Ils n'ont qu'à essayer de diminuer un peu les prix pour nous, pour un peu cher.
Bon, c'est cher, mais on fait avec.
Après Marie, il y a peu poupée. C'est Charlène.
Bon, je suis venue acheter des dinettes avec des bonhommes pour mon neveu, ma nièce. C'est selon mes moyens.
Ce parent a un autre intérêt, celui des jouets éducatifs.
Je vais essayer d'acheter des cadeaux qui vont les aider, tu vas les éduquer. Moi, en tout cas, c'est à ça que je songe.
Et d'autres parents, par contre, évoquent l'impact de la COVID-19 qui accentue la cherté de la vie.
Monsieur Kwame, hein? Cette année, le prix a augmenté. Kwame Jean-Michel. Et comme raison, on nous parle du COVID.
Cette flambée n'est pas une nouveauté. Chaque année, à la veille des fêtes, les prix des marchandises grimpent sur les marchés. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, inquiétude des ménages face à la flambée du prix du poulet de chair à quelques jours des fêtes de fin d'année. Une flambée qui perdure depuis quelques mois. Les opérateurs du secteur indiquent que la crise sanitaire est l'une des causes de la hausse du prix du poulet. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Jultap.
Hormis le Covid-19, la grippe aviaire qui a sévi fin 2020 en Europe est également à l'origine de la hausse du prix du poulet de chair au Cameroun. Germain Kamga est vendeur au marché de Mvorada, le principal marché de poulet de la capitale.
Les grands éleveurs, ils nous font comprendre que la matière première déjà coûte cher. Deuxièmement, le poussin aussi coûte cher et même rare. Pourquoi rare? Parce que les œufs importés n'entrent plus. La raison, c'est le Covid. Les ports et les aéroports sont fermés par rapport à cette activité-là. C'est vrai que nous-mêmes, nous produisons les poussins sur place, mais la demande dépasse l'offre.
Les intrants avicoles vendus au Cameroun proviennent des pays tels que la Belgique, la Hollande et la France. En début du mois dernier, le gouvernement belge a instruit le confinement de sa volaille. Ces derniers jours, il faut débourser parfois 4000 francs CFA pour acheter un poulet de chair. Au cours de ces trois derniers mois, le prix variait entre 2500 francs et 3500 francs CFA. Gervais Kamga, vendeur.
Le marché pour le moment, elle va de mal en pire, dans le sens où le prix du poulet est devenu vraiment quasi insupportable. Au point où, quand la ménagère arrive là, moi, vendeur, j'ai même pitié de la ménagère par rapport au prix du poulet qui est sur le marché actuellement.
Le gouvernement camerounais a accordé des exonérations fiscales aux importateurs du secteur de la volaille. En plus, un groupe technique de l'interprofession avicole a été mis sur pied par le ministère dédié pour permettre aux différents acteurs de travailler ensemble sur la disponibilité des entrants. Parfait Bafakan, président du groupe technique de l'interprofession avicole.
Le gouvernement accompagne, n'est-ce pas, les éleveurs dans l'importation des poussins de reproduction en quantité et à bon prix. Il y a également des mesures de soutien qui ont été récemment annoncées par le ministre des Finances qui contribueront aussi à faciliter le prix du poulet sur les tables et à bon prix.
La filière avicole a été durement impactée par la pandémie du Covid. Elle fait désormais face à de nombreux défis pour amener le prix du poulet de chair au niveau de toutes les bourses. François Ndjounou, président de l'interprofession avicole du Cameroun.
Pour baisser le prix de ces poulets et des œufs, nous devons produire
suffisamment de poussins de jour. Nous devons tout faire pour avoir des intrants, par exemple les tourteaux de soja. Nous devons travailler dessus pour que les prix baissent. Il y a par exemple les tourteaux d'arachide et autres.
Tous les espoirs sont désormais tournés vers l'arrivée sur le marché de la Compagnie fermière du Cameroun, dont les activités ont débuté le 5 novembre dernier. Cette structure dispose d'un couvoir d'une capacité de 112 500 œufs et peut produire 90 000 poussins d'un jour par semaine. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Le changement du climat et la nouvelle vague de fraîcheur qui s'installe progressivement à Dakar entraînent son lot de désagréments pour les personnes vulnérables, notamment les asthmatiques, les personnes démunies et celles qui dorment à la Belle Étoile. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Dans les couloirs de l'hôpital de la Djam de Guédiouaï, il règne un calme plat avec des accompagnateurs préoccupés par le statut de leur malade. Parmi ces visages, il y a Abdoulaye Fall qui amène son neveu asthmatique chercher de l'oxygène pour le deuxième jour d'affilée. Par manque de moyens, il ne parvient pas toujours à acheter les médicaments de son neveu et ce dernier s'expose à des crises fréquentes.
Bon, cette situation devient précaire pour les asthmatiques vu que cette transition vers l'hiver devient un peu dur pour eux en raison de leurs problèmes de santé, de leur fragilité de respiratoire. Voilà pourquoi ça devient un problème. Ils doivent se protéger. Bon, si c'est une solution à long terme, je pense que c'est une mesure à prendre du point de vue de l'État, de voir comment subventionner ce médicament de toutes les façons pour ne pas alourdir le prix. Pour le dernier consommateur, je pense que l'État doit subventionner ces médicaments-là.
Une subvention qui permettrait aux personnes vulnérables d'être mieux prises en charge, comme l'indique Loum. Trouvé sous un pont, il dort à la Belle Étoile malgré son état de santé précaire. Pour lui, une personne qui n'a pas les moyens de trouver un toit n'a pas de quoi acheter des médicaments pour traiter un asthme.
Il est clair que les asthmatiques souffrent en cette période. La maladie devient beaucoup plus compliquée pour nous qui sommes dans la rue, surtout avec les médicaments qui sont trop chers. Tout cela combiné aux difficultés de la vie, à notre situation précaire, à la cherté de la vie au Sénégal, ça devient très difficile. Et sincèrement, nous, on pense plus à quoi manger qu'à autre chose. Et c'est vraiment une situation déplorable et qui pousse les gens à avoir pitié de nous, les asthmatiques.
Du côté des professionnels de la santé, on suggère la prévention pour ceux qui ont des ressources faibles. Dr Ndiatch du CHU d'Al Djam conseille de mieux prendre en compte les facteurs environnementaux qui causent des dégâts importants sur la santé des personnes vulnérables.
La pollution de l'air, donc comme ce qu'on constate en ce moment précis. Maintenant, les choses à éviter, peut-être, voilà, c'est d'éviter au maximum tout ce qui a rapport avec la pollution, que ce soit la fumée ou autre, hein. Donc, d'aérer au maximum leur environnement, là où ils sont, d'aérer au maximum. Et surtout, éviter tout ce qui est en rapport avec la fumée, que ce soit la fumée, la pollution ou autre, quoi. Donc, voilà, ça sont des mesures vraiment, la hygiénique qui pourront vraiment le servir.
Au Sénégal, l'arrivée du froid, souvent brusque, cause beaucoup de dégâts entre les asthmatiques qui n'ont pas de ressources pour se soigner et les sans-abri qui sont exposés en permanence. Pour ces derniers d'ailleurs, il est temps que l'État subventionne fortement leur traitement, mais en attendant cette option, les médecins conseillent la prévention. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Mandrakiza était à la présentation et ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Excellente soirée à vous tous. Au revoir.